Bonjour à tous.
France Inter, le rendez-vous de la médiatrice Emmanuelle Davier.
Bienvenue dans ce rendez-vous qui est celui des auditeurs de France Inter. Vous êtes nombreux à m'écrire, à me faire part de vos réflexions sur la matinale, les émissions, les reportages, les invités ou ce que vous pensez du traitement éditorial de l'actualité. En cette période de conflits sociaux, le projet de réforme des retraites cristallise la contestation et je reçois des milliers de courriels à ce sujet, courriels que vous pouvez lire sur le site de la médiatrice. D'autres secteurs du service public s'agrègent à la colère. La SNCF, la santé et bien sûr Radio France, ce qui nous vaut là encore des milliers de messages. Et je tiens à dire, et c'est très important pour moi, que chaque message est lu et même si je ne peux pas évidemment faire une réponse individuelle à chacun d'entre vous, votre message peut faire l'objet d'une alerte auprès d'un journaliste, d'une émission. C'est donc très précieux pour nous et sachez que mon invitée du jour, la directrice de France Inter, est extrêmement attentive à ce que vous nous écrivez. Laurence Bloch, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Ce matin, nous allons revenir avec vous sur la grève à Radio France et à France Inter. Et puis dans cette émission, nous serons également au téléphone avec Jérôme Garcin, le producteur du Masque et la Plume. Vous avez été très nombreux à lui écrire après l'émission du 24 novembre, consacrée au film J'accuse de Roman Polanski. Mais avant cela, on parle de la grève.
Bonjour à tous et bienvenue sur Inter, vous l'entendez ce matin.
En raison d'un appel à la grève émanant de plusieurs organisations syndicales.
Nous ne sommes pas en mesure de vous proposer nos programmes habituels.
Et en raison d'un appel à la grève émanant de plusieurs organisations syndicales et portant sur le projet de réforme des retraites.
Nous ne sommes pas en mesure de diffuser l'intégralité de nos programmes habituels, mais on se retrouve à 18h18.
Malgré un soutien majoritairement exprimé à la radio publique, des auditeurs ne comprennent pas les raisons de la contestation. Extrait de leur message, la grève est légitime, certes, mais on ne sait même pas pourquoi les journalistes sont en grève. Il serait peut-être normal qu'il y ait un service minimum d'information. Alors, les explications sont sur le site de la médiatrice, dans un article intitulé « Les raisons de la grève » à Radio France, article qui a contribué à une hausse de 257% du taux de fréquentation du site en novembre. C'est dire l'immense besoin d'information des auditeurs sur ce qui se passe dans cette maison, dont les voix rythment leur quotidien. Laurence Bloch, le 2 décembre dernier, Nicolas Demorand a tenté, dans son billet quotidien de 80 secondes, de faire le tour d'une question sensible. Pourquoi fragiliser les radios publiques? Il a interpellé les auditeurs de France Inter en leur disant « Ces radios sont vos radios, elles vous appartiennent, à vous, si vous le souhaitez, de vous saisir de ce débat ». Et Nicolas Demorand a suggéré aux auditeurs de participer à ce débat en m'écrivant. Cette proposition a été littéralement interprétée comme la consigne à suivre pour participer à la sauvegarde des radios publiques. Il n'y a pas eu de débat, mais une unanimité pour défendre un attachement viscéral aux antennes de Radio France et en particulier à France Inter. Laurence Bloch, qu'avez-vous pensé de cette démarche ?
Alors, je voudrais dire que effectivement aujourd'hui, au-delà du conflit social qui anime Radio France, il y a quand même un paysage qui questionne, j'allais dire, le service public et qui questionne l'audiovisuel public. Alors la première chose, c'est effectivement que l'État demande aux sociétés de l'audiovisuel public de faire un effort budgétaire important. C'est 20 millions pour Radio France, c'est 160 millions pour France Télévisions, c'est sur 3 ans. Ça n'est pas illégitime, puisqu'effectivement, on sait que la ressource publique n'est pas en augmentation et qu'il y a une vraie nécessité à rééquilibrer le budget de l'État, mais c'est difficile pour chacune des sociétés. Il y a par ailleurs la question de la redevance qui est posée, donc de la pérennité de la ressource. Et puis par ailleurs, il y a un grand projet de réorganisation de l'audiovisuel public qui là encore n'est pas illégitime parce qu'on voit l'arrivée des plateformes internationales et notamment américaines sur le marché français, donc une concurrence frontale. Donc le risque de voir l'exception culturelle qui nous est si chère et qui est si importante dans ce pays extrêmement menacée. Donc vous voyez qu'il y a un conflit social à Radio France et puis un environnement qui est un environnement en changement, en révolution, en questionnement. Et moi je trouve que l'appel, j'allais dire, de Nicolas Demorand, c'est un appel qui est extrêmement intelligent parce qu'au fond, cette question-là, c'est pas seulement l'affaire des professionnels de la profession, c'est pas seulement l'affaire des journalistes, des producteurs, des techniciens, des réalisateurs, des attachés de production, c'est aussi l'affaire des auditeurs. Et pour tout vous dire, moi j'ai trouvé que cet appel, il était juste, il était salutaire et il était, j'allais dire, même inspirant. Moi, je voudrais à la rentrée 2020 que nous puissions consacrer toute une journée d'antenne à France Inter sur la question du service public, de son utilité aujourd'hui. Je crois que c'est pas la peine de psalmodier tout le temps service public, service public, service public. Il faut explorer ce concept, il faut explorer ce qu'apporte le service public à une société fracturée, inquiète, violente, comme l'est aujourd'hui la France, et qu'au bout de cette exploration, peut-être que beaucoup de choses seront purgées, que beaucoup de choses seront dites, beaucoup de choses exprimées, et qu'au fond, je pense que ça qui est important, on aura les idées plus claires. Donc voilà, je trouve que c'était un message intelligent, qui prenait un peu de hauteur par rapport au simple conflit de cette maison, même si c'est un conflit qui nous concerne et nous inquiète tous. Et que voilà, l'affaire du service public, c'est notre affaire à tous, et en particulier celle des auditeurs.
Alors, comme vous le savez, depuis le début de la grève, nous recevons des milliers de messages. Beaucoup de soutien s'exprime aussi, bien sûr. Et puis, des critiques. Je vous en lis quelques-unes. Vous voudrez bien m'expliquer la logique de la grève qui consiste à priver les auditeurs de leur radio. Pour mémoire, si vous avez du travail, c'est parce que vous avez des auditeurs, ou encore ce que vous faites, c'est punir celles et ceux qui vous écoutent au quotidien et vous vous tirez une balle dans le pied. Laurence Bloch, que répondez-vous à ces critiques ?
Alors, je voudrais dire que Radio France, même si pour moi c'est une maison exceptionnelle, c'est aussi une entreprise comme les autres. Et comme toutes les entreprises, il lui arrive de traverser des conflits sociaux, et c'est le cas en ce moment. Mais je voudrais vraiment dire à toutes les auditrices et à tous les auditeurs que chaque salarié de cette maison, qu'il soit gréviste ou non gréviste, est malheureux de ne pas pouvoir exercer son métier.
Beaucoup d'auditeurs ne comprennent pas les modalités de cette grève. Le message de Jacques l'exprime bien. La grève à France Inter, aussi légitime soit-elle, est une vraie roulette russe. Un jour, la bande originale, le lendemain, non. La Terre au carré, peut-être aujourd'hui, par Jupiter de temps en temps, boomerang une fois sur trois. Bref, pouvez-vous nous expliquer le fonctionnement des programmes sous régime gréviste ? Car même si j'aime la musique, la playlist qui tourne en boucle, ça va un moment et je suis partie à contre-cœur sur une radio privée. Et puis un autre courriel d'Alain qui écoute France Inter depuis 40 ans. Il nous dit « Maintenant, depuis plus de 3 semaines, l'auditeur est soumis à une programmation aléatoire sans aucune explication, juste une seule et même intervention sous forme de phrases ressassées par tous les animateurs. Ce n'est guère à l'honneur d'une radio qui se dit le chantre du service public. Aucune explication sur le déroulement de la grève. Pourquoi une telle attitude est quel en est le sens ? Alors, Laurence Bloch, quel éclairage pouvez-vous apporter à nos auditeurs ?
Alors, ce que je voudrais dire, c'est que le message qui passe en boucle sur l'antenne est un message qui est un message de grève qui est négocié entre les organisations syndicales et la direction, et que c'est un message sur lequel on ne peut pas transiger. Ça fait partie des modalités de grève. Que par ailleurs, effectivement, ils aient le sentiment que cette antenne, depuis bientôt 4 semaines, est un patchwork, ils ont absolument raison. Pourquoi ? C'est parce que cette radio, c'est un travail d'artisan et c'est vraiment une marqueterie de métier. D'où ce sentiment de l'aléatoire, ils ont tout à fait raison. Un jour, il y aura boomerang, le lendemain, il y aura plus boomerang. Mais voilà, c'est aussi parce que tout est fabriqué en interne par des gens qui sont des artisans, qu'effectivement, lorsque l'un de ces artisans décide de se mettre en grève, il est possible qu'il y ait un programme de substitution.
Vous avez parlé d'artisans. En quoi la radio reste une forme d'artisanat culturel ?
Eh bien, parce que c'est fabriqué maison, c'est fabriqué par des équipes. Chaque équipe a son autonomie, chaque émission a son autonomie. C'est pas du tout une fabrique en chaîne. C'est pas du tout un animateur qui succède à un autre animateur devant le micro avec un technicien qui ouvre et ferme le micro. Ce sont des petites cellules qui fabriquent des objets à la main du producteur et à la main du réalisateur. Et chacun de ces objets a son autonomie, à son allure artistique, à sa personnalité, et c'est pour ça que c'est de l'artisanat culturel. Et les gens de cette maison, et de France Inter en particulier, ce sont des artisans fous, c'est-à-dire qu'ils peuvent limer leur émission jusque tard le soir, revenir le matin pour la limer encore mieux, et qu'elle soit parfaite à l'antenne, vous voyez. Mais c'est vraiment, ce sont des entités, c'est pas du tout un produit industriel, la radio que l'on fait à France Inter. Moi, je peux nous comparer, je le fais souvent d'ailleurs, aux grands couturiers, ou à de grandes fabriques de verrerie comme Lalique ou Dôme. Vous voyez, il y a un savoir-faire, il y a une attention. Oui, voilà, aucune émission ne se ressemble. Voilà, c'est pour ça que je parle d'artisanat de la radio.
Donc, nous fabriquons des sculptures sonores.
Absolument.
France Inter, le rendez-vous de la médiatrice, Emmanuelle Davier.
Le masque et la plume. Enfin, des colères que je ne peux pas évidemment cacher dans le courrier de la semaine, Madame Fouillou. J'ai eu la nausée en écoutant les critiques unanimes du Masque et la Plume sur ce film que j'imagine formidable, mais que je boycotte tout autant que je vais boycotter cette émission culte. Voilà, Anaïs Couté est extrêmement déçue par le Masque qui oublie que Polanski est un criminel condamné. En cessant d'encenser ces hommes qui abusent de leur pouvoir, nous créerons un nouveau monde égalitaire. Adieu Masque, adieu Plume. Tiphaine Vanlemans accuse le Masque d'avoir manqué de respect aux victimes, à toutes les femmes qui ont été l'objet de violences sexuelles et sexistes. Marion Cibla ne veut pas séparer le metteur en scène de l'homme, surtout quand il se sert de son art pour jouer les victimes. C'est intolérable. Sarah Santoni nous accuse d'avoir fermé les yeux sur les crimes commis par le réalisateur. Je rappelle qu'on parlait du film, effectivement, et pas de l'homme. Enfin, Sandra Spano nous interpelle que vous ignoriez la condamnation par un tribunal américain d'un réalisateur en dit long sur le chemin de lutte qu'il reste à parcourir aux femmes pour que les crimes du système patriarcal soient pris en compte.
Jérôme Garcin, bonjour.
Oui, bonjour.
Les difficultés liées au transport vous empêchent d'être avec nous en studio, mais plutôt que de renoncer à cette interview, nous avons décidé de la faire par téléphone car il nous paraissait très important de vous entendre au sujet de l'émission du 24 novembre consacrée au film J'accuse de Roman Polanski. Les auditeurs ont été nombreux à réagir à la suite de cette émission. Résumons en trois mots, empruntés à un auditeur, les nombreux messages reçus: déception, agacement, colère. Colère, car au cours de cette émission, on a pu entendre un concert de louanges pour l'artiste et son film, et rien sur l'homme. Et cette décontextualisation a choqué. D'ailleurs, nous venons de vous entendre lire quelques-uns des messages reçus. Jérôme Garcin, que vous inspirent les réactions de vos auditeurs ?
Par principe, je dirais que toutes les réactions sont légitimes. Et la preuve, c'est que je m'exerce chaque dimanche à faire part aux auditeurs de leurs propres réactions, y compris quand elles sont violentes pour les critiques ou pour les œuvres dont on parle. Dans cette affaire Polanski, je suis moi-même un peu troublé par la violence des réactions. Je pense à celles où des auditeurs me disent d'ailleurs vouloir cesser d'écouter l'émission en raison du travail que nous avons fait. Alors le travail, je le rappelle en deux mots quand même, Le Masque et la Plume, depuis près de 65 ans, est une émission de critique. L'émission rassemble des critiques dont le travail consiste à juger les œuvres qui sont présentées. Dans le cas du J'accuse de Polanski, c'est un film qui traite d'une affaire historique particulièrement importante pour notre pays, qu'est l'affaire Dreyfus. Et enfin, c'est l'œuvre d'un cinéaste qu'on peut détester, qu'on peut aimer, mais qui est en tout cas, à mon avis, incontournable, qui est Roman Polanski. Dans cette émission à laquelle vous faites allusion, j'ai en préalable tenu à rappeler que Roman Polanski, au moment où sortait son film, avait été interpellé très violemment, puisqu'il y a eu cette accusation de viol prononcée par la photographe Valentine Meunier, au moment où sortait ce film. Je l'ai rappelé en préambule. Ensuite, le propos, le travail des critiques du Masque et la Plume, qui sont, encore une fois, je le rappelle, des critiques de cinéma et pas des journalistes d'investigation, a été de juger une œuvre. Il se trouve que tous les critiques étaient favorables à ce film. Alors, au nom de quoi je leur aurais demandé de ne pas exprimer leur avis de critique, d'une part, et deuxièmement, de substituer, ce qui est beaucoup plus grave dans l'accusation qui est formulée contre l'émission, de substituer à ce jugement critique une intervention sur les affaires dont le cinéaste est actuellement la cible, de manière, encore une fois, parfaitement légitime. Mais Le Masque, ça n'est pas une émission d'enquêteur ou de journaliste de société. Et donc, moi, je peux très bien comprendre qu'on n'aille pas voir ce film pour des raisons morales, éthiques, mais je ne vois pas au nom de quoi on empêcherait l'émission de faire son travail de critique, les critiques d'exprimer leur jugement, à chacun après de se faire sa propre philosophie. Moi, je me méfie beaucoup des boycotts qui sont, y compris d'ailleurs à l'encontre de l'émission, qui sont réclamés par des auditeurs, parce que ça ne correspond pas, encore une fois, au principe du masque et la plume, et je dirais même à son fonctionnement, c'est-à-dire, voilà, notre travail chaque semaine, c'est de rendre compte de l'actualité culturelle, cinématographique, théâtrale ou littéraire, et c'est de distinguer les œuvres des hommes.
Jérôme Garcin, cette séquence, toutes ces réactions d'auditeurs, ont-elles été l'occasion d'un échange avec les critiques participant à l'émission ? Est-ce que cela vous a donné matière à réflexion ?
Ben oui, puisque la preuve d'ailleurs, c'est qu'à l'antenne, les critiques ont, après la lecture de ce courrier, encore une fois, courrier que je sélectionne moi-même. Il faut que les auditeurs le sachent.
Hein. Oui, mais je dois dire aux auditeurs quand même que vous avez été très fidèle dans la sélection faite, puisque ce courrier, j'en avais pris également connaissance.
Bon, ben,
et c'est un reflet très juste de ce que nous avons reçu.
Et chaque semaine, je m'efforce encore une fois de trier moi-même, tout seul, le courrier abondant que l'émission reçoit, y compris d'ailleurs quand c'est du courrier aimable, parce que je tiens absolument à ce que les auditeurs soient le cinquième critique de l'émission.
Jérôme Garcin, j'aimerais qu'on finisse cette interview en évoquant ceux que vous avez cités déjà au cours de notre entretien. Il s'agit des auditeurs qui ont décidé qu'ils n'écouteraient plus Le Masque et la Plume à la suite de cette émission. Qu'aimeriez-vous leur dire ?
Leur dire que la porte est toujours ouverte, que l'antenne est toujours ouverte, que je ne vois pas au nom de quoi ils se priveraient d'une émission qui leur est destinée. Et que deuxièmement, s'ils veulent suivre l'actualité judiciaire, sociétale, politique, toute l'antenne d'Inter, toute la journée est là pour ça, elle le fait très bien. Mais il ne faut pas demander aux émissions ce qu'elles n'ont pas à donner. Ce qu'on demande au Masque et la Plume, c'est d'éclairer, y compris d'ailleurs en étant en désaccord, les auditeurs sur l'actualité culturelle. Ça n'est pas de faire un travail qui ne relève pas de l'essence même de cette émission.
Merci Jérôme Garcin.
Merci à vous.
Laurence Bloch, une réaction au propos de Jérôme Garcin ?
Non, c'est pas forcément au propos de Jérôme que je trouve parfait. C'est revenir juste une seconde sur la question du film de Roman Polanski dont France Inter est partenaire et dont j'ai dit que nous resterions partenaires. Mais je pense que ce qui est très important, c'est que les positions, même très contraires, puissent s'exprimer sur ces problématiques. Et je voudrais simplement recommander aux auditeurs l'écoute d'émissions que Léa Salamé fabrique pour les fêtes. Elle continue sa série des femmes puissantes. Et demain, samedi 21, de midi à 13h, il y a une interview d'Elisabeth Badinter, qui a des positions très précises sur la question de la condamnation par les réseaux sociaux, de la justice qui n'est pas saisie et qui ne peut plus s'exprimer. Et le samedi 28, Virginie Despentes, qui a une position absolument contraire. Et je pense que c'est l'honneur de cette radio que de faire entendre ces deux positions contraires de deux femmes qui réfléchissent le monde aujourd'hui.
Et donc de susciter le débat.
Absolument.
Merci Laurence Bloch d'être venue répondre aux questions de vos auditeurs. C'est la fin du rendez-vous de la médiatrice à la réalisation Anne-Cécile Perrin et à mes côtés au service de la médiation Catherine Cadic et Juliette Fayolet. Si vous souhaitez faire une remarque sur une émission, poser une question sur la ligne éditoriale de France Inter, n'hésitez pas, vous qui nous écoutez, à m'écrire sur le site médiatrice de Radio France. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Twitter et Facebook.